L'année 2021 a été une très grande année pour, je dirais, pour tous les Nord-Côtiers, pour tous les résidents de la Haute-Côte-Nord et pour certainement les élus. Porte-parole en matière d'affaires autochtones, elle a repris aussi sa responsabilité à titre de whip adjointe. Marilyn Gill, bonjour, elle est avec nous. J'espère que vous allez bien.
Oui, très bien, merci.
Donc, c'est une grosse année 2021. Vous avez été aussi en élection. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de dossiers avec des bonnes nouvelles, avec des dossiers qui sera que vous prendrez encore en considération pour continuer pour les quatre prochaines années. Et j'avais le goût qu'on fasse un petit bilan, un résumé de cette année 2021. Premièrement, comment vous l'avez trouvé cette année-là, qui était aussi une année d'élection?
C'est une année mouvementée. Je pense que c'est vraiment l'impression que j'ai, même je dis cette année, mais l'année précédente aussi, où on doit s'adapter. C'est certain qu'on s'adapte toujours, mais on doit s'adapter, j'ai l'impression, à toutes les semaines, à quelque chose de nouveau, quelque chose à quoi on n'était pas on s'attendait pas, en fait, dont l'élection, bien entendu. Ouais. Donc, oui, une année où on s'adapte continuellement, où il y a beaucoup de mouvements, et sans jeu de mots, parce que, évidemment, je suis appelée à aller à l'extérieur et à plein d'endroits aussi. Mais bref, voilà. Donc, ça a été une année assez intense. Et elle est pas terminée.
Non, elle est pas terminée. Elle est encore très, très mouvementée. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, vous avez été nommée comme porte-parole en matière d'affaires autochtones. Qu'est-ce que vous pensez de l'année 2021 de faire équipe justement avec les Premières Nations pour la Côte-Nord? Est-ce que c'est mission accomplie? Est-ce qu'il y a une amélioration selon vous?
Personnellement, pour la dernière année puis même les années précédentes, moi, ce que je sens, et là, bien humblement, toujours, là, je dis tout le temps, je parlerai pas pour les Premières Nations, mais de l'extérieur, avec ce qu'on me dit, moi, je vois je prendrais le mot empowerment, un peu comme les femmes l'ont fait aussi. Pour ce qui est des Premières Nations, je vois qu'elles sont présentes partout. Elles l'étaient aussi avant, mais peut-être moins visibles sur le plan culturel, sur le plan politique. Et je suis contente que mon chef et François Blanchet me fasse confiance, parce que pour lui, c'est un dossier, c'est son dossier, en fait, hein, les affaires autochtones, parce qu'il se dit, en tout respect, comme chef de formation politique, ce sont des nations, donc la personne qui est leur interlocuteur, si on veut, c'est lui-même, bien sûr. Mais évidemment, je fais tout le travail, je fais du réseautage, je veux parler à tout le monde et je veux porter la parole de tout le monde. Donc, pour moi, c'est ça. Humblement, c'est une fierté, c'est un signe de confiance et c'est vraiment un dossier que j'ai toujours souhaité. Je vous l'avoue, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon, voilà. Et je suis très heureuse des relations qu'on a ici sur la Côte-Nord avec l'ensemble des communautés Innu-Naskapi. Puisque je vois aussi, je suis déjà sur le terrain, même là, ça se complique un peu, mais je rencontre des gens d'un peu partout et c'est extraordinaire tout. Extraordinaire dans le sens de la réception, bien sûr, des Premières Nations, mais extraordinaire dans le sens de travail, évidemment, à accomplir. Mais les Premières Nations ont tellement de volonté et chantent une force aussi, et une force de la jeunesse aussi, que c'est hyper inspirant, cette volonté de prendre en charge leur propre avenir. Là, évidemment, on est tous pour l'autodétermination. Donc, c'est vraiment un dossier énorme. Mais il y a beaucoup de, comme j'ai dit tout à l'heure, la visibilité, vraiment la place que prennent les Premières Nations est très importante. Et moi, je trouve que ça augure juste bien pour l'avenir. Donc, bien sûr, la vérité n'est pas encore toute connue. Donc, la réconciliation, on y va lentement. Mais moi, je considère, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une volonté de la part des Premières Nations de prendre tout ça en charge. C'est pas le bon terme, là, mais de porter tout ça pour les autres générations aussi. Je l'ai vu le 30 septembre dernier, là, c'est quelque chose.
Oui, et il faut dire aussi que votre relation, là, vous en êtes jamais caché, elle a toujours été très bonne aussi avec les Autochtones. Pour l'état du dossier sur les communautés, avec des fois les difficultés à avoir de l'eau potable, est-ce que c'est un dossier qui va mieux à la fin 2021?
Ben, en fait, ça se complexifie, je devrais dire. Évidemment, le gouvernement fédéral a diminué le nombre de d'avis d'ébullition. Mais quand on pense à des communautés en Abitibi qui n'ont pas encore l'eau, non, ça n'avance pas. Et j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai pris la parole justement en début de législature pour parler, pour discuter, si on veut, en chambre avec le ministre Mark Miller, parce qu'on a dit oui, c'est qu'on ne connaît pas exactement quels sont les besoins. Donc, et c'est difficile parce que c'est au nord. Et pour moi, ça ne tient pas. Ça fait des décennies. On a construit ici, que ce soit en Basse-Côte, que ce soit à Schefferville. Bref, on est capable d'obtenir de l'eau. Donc, pour moi, ce n'est pas un dossier qui est réglé. Puis, il faut, si on veut aller de l'avant aussi, il y a la question, il y en a qui n'ont même pas d'eau potable, mais en même temps, les systèmes sont désuets dans certaines de nos communautés. Ce qui veut dire que oui, il va falloir qu'on fasse une mise à niveau. Une mise à niveau, et pas juste parce que les équipements sont vétustes, mais également, on a besoin de quantités d'eau qui n'étaient peut-être pas exactement les mêmes. Il y a vraiment des communautés dont la démographie explose. Hein? Il y a beaucoup de jeunes, donc... on n'est plus au même endroit, donc je pense qu'il faut vraiment, et les Premières Nations le disent aussi, il faut vraiment voir plus loin. On va toujours dans un horizon très, très bref, mais avec justement cette explosion démographique-là, ça suppose d'autres défis aussi qui ne sont plus exactement les mêmes. Mais ce dossier-là, en fait, il faut injecter de l'argent, puis c'est certain, je le dis dans plusieurs dossiers, mais c'est une boutade, mais en même temps, c'est vrai, on dit qu'on est capable, d'aller sur la Lune, non, on est capable d'avoir de l'eau dans les communautés nordiques, et de l'eau potable, et d'éviter que les populations se sentent dans un pays du tiers-monde chez eux. Là, c'est inacceptable.
Oui, oui, au Québec. Là, et vous l'avez dit, la démographie sur les communautés autochtones augmente. Par contre, si on regarde dans l'ensemble du territoire de la Côte-Nord, l'occupation du territoire est un fléau. Là, ça diminue d'année en année, malheureusement. Il y avait quand même des projets pour mettre... aider tout ça, entre autres un forum sur le désenclavement. Qu'est-ce qu'il y en est de ce dossier-là pour vous?
Bien, là, présentement, on veut travailler à partir de janvier pour en faire un. On se dit, au pire, s'il ne sera pas si grand qu'il devait l'être au mois de mai, j'espère que la COVID sera passée. On estimait peut-être un 400 personnes qui se réunissent. Donc, on verra de quelle façon on le fera, si ce sera en hybride, mais je veux vraiment qu'on l'entame. Donc, pour le mois de mai, mais peut-être en version réduite, quitte à tenir une deuxième. De toute façon, déjà, il y avait plusieurs phases dans l'idée. Donc ça va se poursuivre. Entre autres, regardez, on l'a vu dernièrement avec la question de Post-Canada. Quand on parle d'enclavement, oui, c'est routier, mais ça a des impacts tellement sur tout. Ça a des impacts sur la société d'État, sur à cause du transport aérien, etc. Donc, je trouve que c'est un bon moment. En même temps, on a des élections qui s'en viennent bientôt aussi. Donc, pourquoi pas profiter de ce moment-là où tout le monde fait un peu sa liste d'épicerie, bien entendu, mais où on fait un état des lieux, oui, si on voulait, de ce qui se passe présentement, de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé, puis est-ce qu'on veut s'en aller aussi avec tout ça. Donc, moi, c'est certain que ça fait partie des priorités. Puis en campagne électorale, toute la question de la démographie, bien sûr, vous en avez parlé, la question de la main-d'œuvre, la question du désenclavement, de l'occupation du territoire, tout est interrelié. Vraiment, tout est interrelié, puis ça fait partie vraiment des priorités des gens. Même ces jours-ci, avec ce qu'on annonce pour la COVID, on voit que ça revient toujours, que ce soit le traversier, que ce soit le pont, que ça revient. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous relie, et sans jeu de mots, là, qui nous relie tous les nord-côtiers. Donc, je pense que c'est important de le tenir.
Pendant les élections fédérales, entre autres, on vous a entendu en parler. Pendant les élections municipales, chacun des candidats en a parlé, a essayé de trouver des solutions dans leur propre municipalité pour essayer d'inviter les gens à venir s'installer chez eux. Ils essaient évidemment d'ouvrir des nouveaux quartiers, d'essayer d'ouvrir aussi des terrains pour des bâtiments. Donc, il y a aussi cette volonté dans chacune des municipalités et somme toute, certains candidats expliquaient aussi que la COVID a eu des impacts un peu positifs, là, on va essayer de les souligner, entre autres avec le tourisme parce que les gens ont pu connaître la région, mais au niveau municipal, ils sont souvent à la recherche de fonds et de subventions pour essayer d'aider justement de promouvoir leur propre municipalité. J'imagine qu'en Haute-Côte-Nord, on en a beaucoup parlé, ça a été ça, mais j'imagine que c'est comme ça aussi dans l'ensemble du territoire.
c'est comme ça dans l'ensemble du territoire. Puis encore une fois, tous les dossiers sont interreliés. Oui, il y a eu la question de la COVID qui nous a fait une superbe vitrine, là, parce que tous les gens disent, j'ai même l'impression parfois que c'est la Côte-Nord existe ou « wow, c'est beau la Côte-Nord ». Puis des fois, je suis contente d'entendre quelque chose parce que je suis très chauvine, comme « ah, mais il y a la Gaspésie, mais franchement, la Côte-Nord, avoir su ». Donc, c'est une chose. Puis en même temps, on va attirer les gens, mais on se rend compte que tout se complexifie. Vous avez parlé de logement, donc on veut accueillir des gens. Moi, ce que j'ai vu dans la campagne, j'en ai parlé avec plusieurs maires, dernièrement avec le nouveau maire de Sept-Îles, M. Beaupré, où on se disait, soit qu'il y a des logements à certains endroits qui, selon les normes des gouvernements, bref, on n'arrive pas à... Ils sont vides. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire. Il faudrait être plus souple dans les règles. Des difficultés pour ce qui est de l'immigration aussi. Il y a plein de gens qui veulent venir chez nous. Nous, on le voit au bureau avec... puis d'ailleurs, on a fait une sortie là-dessus, le Bloc québécois, cette semaine. Beaucoup d'immigrants de l'Afrique francophone qui, pour des raisons... Écoutez, c'est incroyable. Là, pour des raisons de logiciels, sont discriminés. Donc, n'arrivent pas à venir. Donc, tout l'appareil qui est très lourd aussi, quand on pense à nos institutions scolaires, là, collégiales, par exemple, on le voit très bien, les jeunes, beaucoup de jeunes de l'Afrique. Donc, on veut que les gens viennent chez nous, mais c'est difficile pour ce qui est de l'immigration. Les Premières Nations, pour même chose, je pense avec la Chambre de commerce de Ouachat-Makmalotenam, Sept-Îles Ouachat-Makmalotenam, où on se dit, il faut que les gens aillent travailler, à Sept-Îles, mais on ne veut pas qu'ils soient pénalisés non plus, ou Pessamit ici, pas loin, à Bécomo, où on se dit, il faut qu'il y ait un transport. Donc, tout est interrelié. Puis, je proposais justement en campagne, je voulais pas alourdir ça, mais j'aurais aimé une table où on discute d'emploi, d'immigration, puis qu'on trouve des solutions parce qu'il y a des problèmes qui sont vraiment, je dirais, régionaux. Quand les gens viennent chez nous, qui ont des frais supplémentaires à payer, comment être attractif, sinon par notre fleuve, puis nos montagnes, puis la forêt. Il faut trouver des façons de faire. Par exemple, les gens peuvent pas faire de tests ici sur la Côte-Nord, de leurs tests de santé pour ce qui est de l'immigration. Ça a aucun sens que ça nuise comme ça. Donc, de discuter tout le monde ensemble, parce que je dois vous faire un aveu, mais moi, je m'ennuie de la défunte CRE, où justement, il y avait tous les élus qui étaient présents, des gens de la société civile aussi. Bien sûr, le fédéral n'était pas là, mais il aurait pu être invité. Mais justement, pour qu'on discute tout le monde, qu'on déploie des actions qui vont vraiment couvrir tout le territoire selon les besoins, qui sont vraiment pas les mêmes que ceux de Montréal, on le sait.
Oui.
Mais ensuite, pour le demander au gouvernement, donc... C'est vraiment un énorme dossier, puis qui est nouveau aussi, nouveau au sens où on le voit avec les retraites, là, les grandes compagnies, par exemple, puis je dis des grandes compagnies, mais les PME aussi. Je suis allée à Boissaco il n'y a pas tellement longtemps. On a besoin de gens et de plus en plus rapidement. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions, puis on sait que ça vient des gens du milieu, c'est nous qui connaissons le mieux, donc il faut se réunir puis proposer des solutions. Ça risque d'aller plus vite si ça se fait comme ça. Prendre en charge, hein? Ça revient tout le temps à ça, hein? Se prendre en charge.
Vous avez parlé de Boissaco, puis Boissaco avec qui est situé évidemment du côté de Sacré-Cœur. Sacré-Cœur ont une société de développement. Ils veulent mettre en place aussi un comité pour essayer de trouver des idées, pour attirer des gens. Lors de l'annonce devant presse, ils l'ont bel et bien expliqué parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y a des emplois pour les combler. Il n'y a par contre pas de gens et ils veulent attirer des gens, mais pour l'instant, ils n'ont pas non plus de logement ou de maison. Donc là, c'est comme si on se retrouve dans un cercle, puis c'est pas évident à attirer vu que tout n'est pas encore en place. Mais évidemment, là, comme Boissaco, qui est vraiment un gagne-pain, il y en a des emplois, puis les gens qui veulent s'installer peuvent trouver un emploi. Les entreprises en tant que telles, si on parle de l'industrie forestière, comment ça se passe pour l'année 2021? Qu'est-ce qui va se passer avec l'année 2022 selon vos dossiers puis selon ce que vous travaillez présentement?
Nous, c'est certain que le caucus bois, on le poursuit au Bloc québécois. On voit ce qui s'est passé dernièrement, justement, avec les tarifs du côté des Américains. Donc, le protectionnisme, malgré le changement de gouvernement, on se disait peut-être que le ton sera plus doux que celui de M. Trump. Reste que le Buy America Act, on a la certitude que ça demeure dans l'esprit des Américains. J'ai un collègue, d'ailleurs, qui est allé il y a deux semaines, ça fait peu plus longtemps que ça, à Washington, une délégation justement pour la question qui devait traiter du bois d'œuvre, mais finalement, ils ont traité d'autres choses, dont des voitures électriques. Ça a été un peu une surprise. Donc, on a une crainte de la part du gouvernement du Canada qui n'en fait pas nécessairement une priorité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe de ce côté-là. On ne veut pas perdre notre industrie. Donc, on a fait beaucoup de démarches, je dirais, du côté est américain, entre autres pour la construction de maisons, parce qu'eux autres aussi sont perdus. Donc, on a rencontré beaucoup de représentants. Et c'est beaucoup de discussions. Hein. C'est ça, on va rencontrer les gens pour les convaincre de ce qui serait le mieux pour eux, pour qu'ils fassent des pressions aussi au sein de leur propre parti, dirais-je. Puis, on a un caucus aussi du bois. M'excuserai, je vais tousser. Quand je parle trop, ça fait ça. C'est un caucus du bois où on veut, encore là, il y avait des solutions qu'on voulait apporter, des solutions, de l'aide pour l'industrie. On veut qu'il y ait une reconnaissance du caractère vert, bref, et de la séquestration du carbone de nos forêts. En fait, montrer que l'industrie est absolument parfaite pour la transition parce qu'on veut s'en aller vers une économie verte. On veut se départir, bien sûr, du pétrole. Donc, on continue. D'ailleurs, on a un caucus, même un forum là-dessus au mois de février qui va avoir lieu à Trois-Rivières. Là. Mes collègues considèrent que c'est central, mais moi, je trouve que c'est pas mal à Saint-Pierre. Non, qui est central au Québec. Mais voilà, c'est qu'on continue... Encore une fois, de trouver des solutions. On est des partis, partis d'opposition, le Bloc québécois, mais on veut toujours proposer, dire, bon, regarde, là, on n'est pas d'accord avec ça, mais voici ce qu'on propose. Et ça peut être géométrie variable, pardon, pour chacune, pour le Québec et pour les provinces. Et nous, c'est certain que le bois, on compte là-dessus. Donc, encore là, toutes les industries sont invitées, tous les centres de recherche. Puis, c'est ensemble qu'on trouve des solutions, des propositions qu'on fait au gouvernement. C'est certain que ça bouge tranquillement, mais si on le fait pas, il n'y a rien qui va bouger. Ouais. Donc ça demeure, je dois vous dire, ça demeure central. C'est mon collègue Mario Simard qui est porte-parole en matière de ressources naturelles, mais dans le caucus, c'est vraiment une des priorités, la question du bois. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler en 2022, mais j'ai hâte au jour où justement notre industrie sera plus pénalisée sur la scène américaine et où finalement, on lui rendra ce qui lui appartient. Hein. On lui a souvent fait mauvaise presse, mais en disant que c'est une industrie qui pouvait nuire, mais en même temps, non, c'est complètement faux. On est dans des ressources naturelles renouvelables et on est capable de faire tellement de produits aujourd'hui. D'ailleurs, Boissaco, Sacopan en sont tellement un exemple. Ils utilisent tout. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui. Là, je le cite tout le temps, partout comme exemple. Donc, on utilise tout l'arbre. Il faut aller vers ça, puis il faut promouvoir nos industries. On les défend, mais on les promeut aussi.
Ouais, et ça revient aussi à ce que vous disiez que tout est interrelié parce qu'en fait cette industrie là qui est une industrie tellement importante au niveau aussi de l'écologie de la planète peut devenir aussi un exemple et c'est chez nous, c'est sur la côte nord, c'est même en haute côte nord, donc évidemment c'est très très important de le souligner. On comprendra qu'en 2022 c'est un dossier que vous porterez à bout de bras. Évidemment, on parle de la pénurie de main d'œuvre par manque d'employés. Un gros dossier qui s'est fait, dont on a parlé en 2021 et qu'on a parlé dans les dernières années, c'est l'assurance emploi. On sait qu'il y a eu une augmentation en cas de maladie grave au niveau des prestations. Pour les employeurs, les travailleurs saisonniers, il y a encore aussi beaucoup de mécontentement. À la fin 2021, comme ça, même si les élections sont passées depuis peu, qu'est-ce qu'il y en est du dossier de l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers?
Plusieurs choses. J'ai trouvé, moi je croyais que la COVID aurait fait la preuve que justement tout le monde, même si la preuve n'était pas à faire, mais bon, parfois on dirait qu'on en a besoin comme argument, mais du fait que tout le monde a besoin d'un salaire à l'année, on l'a vu, on a donné, la prestation canadienne d'urgence pour les gens qui perdaient leur emploi en disant, mais personne ne peut perdre son emploi. Et bon, voilà. Et les travailleurs saisonniers, eux, ça a toujours été, de l'industrie, pardon, saisonnière, ça a toujours été le cas. Mais là, ce qui est arrivé avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on a essayé de faire une espèce d'adéquation. Voyons donc, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, mais il y a des emplois. Comme si les gens qui travaillent dans une usine de transformation de poissons, c'est exactement la même chose que d'aller travailler dans un hôtel à Montréal. C'est pas la même chose. Les gens se téléportent pas. Les horaires, ça fonctionne pas. On a besoin de gens partout. J'ai trouvé que c'était une année où, un peu comme si on reculait, il fallait refaire de la sensibilisation. Non, ce n'est pas des vases communicants. Ce n'est pas s'il y a 100 000 personnes ils s'en vont pas, qui sont dans l'industrie saisonnière, ça ne va pas combler les 100 000 autres emplois ailleurs au Québec. Ça n'a aucun sens. On a besoin des deux industries et on a besoin du double de travailleurs, en fait. Et puis tranquillement, on l'a vu même en campagne, le gouvernement hésitait malgré tout ce qui avait été fait en comité par ma collègue Louise Chabot, légèrement travaillé très avec elle de façon conjointe. Oui, très, très serrée, je vous dirais. Elle y croit absolument à la réforme de l'assurance-emploi, mais là, on voyait que ça devait pas s'en venir. C'était pas non plus dans la plateforme des libéraux, mais des dernières discussions qu'on a eues, on devrait arriver avec un projet de loi de réforme, si je ne m'abuse, d'ici la fin de la session parlementaire d'hiver, donc probablement au mois de juin. C'est une annonce comme ça, assez vague, mais pour moi, déjà, c'est l'ouverture qu'on attendait depuis longtemps. Nous, on voulait plus de consultation parce que c'est toujours repoussé à plus tard. Tout le monde était fin prêt. Donc, faut voir jusqu'où ils sont prêts à aller parce que là, ils disent une réforme, oui. Ils ne voulaient pas dire le mot réforme, mais la réforme, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Donc, c'est tout le travail qu'il va y avoir à faire cet hiver, mais là, on voit… Il y a une ouverture, il y a un espace, ça va retourner en comité, on va refaire des demandes, on va modifier le projet de loi quand il va être déposé. Donc, j'espère, même si c'est très long, qu'on va faire des gains là aussi. On a fait pour les semaines, même si les semaines, les 26 semaines, on va avoir 50. Donc, on continue quand même pour que les gens soient le mieux couverts possible. C'est ça l'idée que tout le monde ait un filet social qui les protège de ce qu'on veut pas qu'il arrive, en fait. Là. Les gens qui se retrouvent malades ou qui se retrouvent sans emploi, c'est pas volontairement.
Oui, le fameux trou noir, là, donc la période où les gens n'ont aucun revenu dans cette période-là.
Donc, on souhaite que ce soit couvert à ce moment-là, mais ça va être un gros travail et justement, on va avoir besoin des gens de la Haute-Côte, d'Action chômage, bref, qui continuent leur travail. Ça fait des années qu'ils le font. On sait que c'est long, que c'est difficile. Mais en même temps, c'est ça, il faut demander pour avoir. Je pense qu'on réussit à obtenir gain de cause à un certain moment et j'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour le mois de juin.
Oui, oui, c'est vraiment une bonne nouvelle d'entendre ça, même si c'est lointain, parce que Tadoussac, en conférence de presse en 2021, en ont parlé et ont une réalité très, très particulière, mais qui est vraiment leur propre réalité et que si ça continue dans ce sens-là, ben l'industrie saisonnière va faire en sorte que tous ces gens-là vont évidemment déménager ailleurs. Et c'est vrai que Tadoussac pourrait ne plus être un village qui pourrait survivre à tout ça.
Il n'y a aucun sens.
Non. Ouais. Donc, si je poursuis dans les dossiers, vous avez parlé justement, là, si on continue notre chemin, parce que encore une fois, tout est interrelié. Vous avez fait une lettre ouverte à Poste Canada parce qu'il y a une autre réalité qui touche, on va se le dire, beaucoup moins la Haute-Côte-Nord, mais si on parle plus loin sur la Côte-Nord, c'est vraiment très, très inquiétant. Les gens ne reçoivent pas soit des besoins pour leur santé, soit justement un chèque pour pouvoir survivre et finir leur mois. Donc, pourquoi vous avez fait cette lettre ouverte-là? Et cette lettre ouverte-là, elle consiste à dénoncer quoi exactement?
Ben, en fait, c'est dénoncer l'immobilisme parce que ça fait des années, je pourrais dire, plus que deux ans, en fait, qu'on travaille le dossier. Puis je dis « on » parce que c'est en collaboration, c'est mon bureau, mais je trouve ça important toujours que tout le monde collabore parce que ça donne toujours une crédibilité aux actions de tous. Tout le monde a les mêmes informations puis tout le monde peut collaborer pour trouver des solutions aussi, faire des propositions. Donc, ça fait un peu plus que deux ans. Pour plein de raisons, là, on dit en Basse-Côte-Nord, mais on s'entend que Post-Canada, mais dans plusieurs régions sur la Côte-Nord, ça coûte plus cher. Beaucoup plus cher qu'ailleurs. Pour ma part, comme femme de région, je me dis que c'est une responsabilité de la société d'État que ce soit équitable les coûts. D'autant plus que on est considéré éloigné. Donc pour nous, à la limite, ça devrait être moins cher parce que il y a des denrées qui sont essentielles. Les denrées essentielles, je pense à de la nourriture. Il y a aussi les médicaments, lesquels vous avez évoqué. Par exemple, pour la Basse-Côte. C'est nécessaire, c'est essentiel, puis un monopole de Post-Canada. Et je dis immobilistes parce qu'on nous écoute, sont vraiment les rapports sont cordiaux, les gens sont empreintes d'empathie, mais somme toute, malgré les propositions de solutions qu'on leur fait, où on nous dit oui, c'est possible, on va le faire, mais il n'y a rien qui bouge. Puis là, de voir des gens année après année qui ne reçoivent pas leurs médicaments, bon, pour le cancer, que ce soit pour le diabète, cirrhose en plaques, peu importe, on sait ce que ça fait de manquer une dose de médicaments ou plusieurs, on sait que ça a des impacts sur la santé, puis de toute façon, le stress qui vient avec ça, c'est impensable, puis d'autant plus, comme je disais, qu'il y a des solutions qui sont proposées et qu'on dit que ça a bien de l'allure et que ce serait applicable. Donc, je comprends pas. Puis encore dernièrement, je voyais des parents sur... parce que je suis le monde partout, on peut pas nécessairement se déplacer, ouais. Mais je regarde beaucoup les médias sociaux puis je lis ce que les gens disent. Puis des parents de Kegaska qui disent, ben notre fils a reçu ses médicaments pour le diabète. Nous, ce qu'on voudrait pour Noël, là, c'est des services postaux. Parce qu'on veut des services postaux qu'on craint pour la santé de nos enfants, ça n'a aucun sens. Et je rappelle même que Kegaska est relié par la route. Donc, oui. On ne parle pas, je ne dis pas qu'il faut pas, il faut aussi la tête à la baleine, puis à Chevry, puis à Harrington, mais reste que on est rendu avec des difficultés sur la route. Donc, tant Kegaska, puis là, on a vu la semaine dernière ou la semaine précédente, à Gouaniche, Natashquan, où là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le service diminue partout sur la Côte-Nord. Puis en plus, il y a vraiment des problèmes de transparence de la part de Poste Canada. On n'arrive pas à nous dire quand sont les vols, quand sont les envois, si les gens ont vraiment reçu ou pas. Donc, pour la population aussi, le fait qu'il y ait de la transparence, que ça devienne abordable, puis qu'on soit capable, bref, d'appliquer les solutions. Donc, c'est l'idée de faire monter un peu la pression, évidemment, et que ce soit connu de la part des gens, parce que quand les gens le savent, ça nous aide aussi. Donc, je vais rencontrer la ministre, et bien sûr, parce qu'en Canada, on a déjà une rencontre prévue avec eux, mais il faut que ça bouge. Puis parfois, les élus, d'ailleurs, étaient d'accord. On en avait parlé en Basse-Côte-Nord. On a dit, ben là, au mois de juin dernier, on avait fait une rencontre. Oui, il y a eu les élections, mais on s'est dit ensuite, là, c'était la limite et elle avait été annoncée qu'il fallait qu'on procède autrement parce que ça ne peut pas durer comme ça. Il y a une responsabilité quand même de la société d'État.
Et pour cette rencontre-là, vous auriez aussi aimé avoir plusieurs signatures, dont tous les gens de la Côte-Nord, hein, pour avoir l'appui, pour expliquer et dénoncer cette situation-là.
Oui, oui. Oui, puis pour le redire aussi à la ministre, parfois il y a des gestes, même si c'est pas 2 millions de noms qu'on a, le fait d'arriver avec un objet très symbolique, regardez, il y a des gens qui vous le demandent. Ça rappelle aussi aux gens, que ce soit la ministre, que ce soit les gens de Poste Canada. Donc, c'est vraiment important, puis ça montre notre solidarité aussi. Nord-Côtière qui est assez forte. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas se déplacer partout. C'est toujours une de nos difficultés, mais reste qu'on reçoit des messages des gens, puis même d'autres régions du Québec. Et ça amène de l'eau au moulin. Et pour la rencontre, ben, je pourrais dire, ben, regardez les lits. C'est ce que les gens vous demandent aussi.
Et on l'a dit d'entrée de jeu, au début de l'entrevue, que on est comme là, on se parle en date du 21 décembre, mais l'année n'est pas terminée. On voit que la COVID-19 reprend de plus belle, reprend avec un plus haut taux de cas partout dans la province, mais aussi pour la Côte-Nord depuis le début de la pandémie. J'allais quand même vous demander c'était quoi les défis avec la pandémie en 2021, mais j'ai le goût aussi de vous demander ce sera quoi les défis pour la prochaine année, pour le temps des fêtes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut aussi dire peut-être aux Nord-Côtiers pour les rassurer avec ce qui se passe présentement là, pour la fin de l'année 2021.
Avec votre question, vous me donnez envie d'être absolument, je dis pas que je suis pas moi-même d'habitude, mais oui, députée, mais humaine en même temps. J'aurais eu les mêmes mots que le ministre Dubé quand il a dit la maudite COVID. Je pense que même si on savait qu'il y avait un risque, j'ai l'impression qu'on, peut-être parce qu'on n'en voulait tellement pas, on voulait tellement pas que ça arrive qu'on se doutait pas que ça pouvait arriver comme ça. Même moi, j'ai été surprise à Ottawa il y a 3 semaines parce qu'à ce moment-là, j'ai eu des discussions. Justement, je suis dans un comité sénateur-député où on décide des voyages, entre autres, diplomatiques, bref, de différentes associations. Puis on a dit non, c'est terminé, les déplacements, les délégations jusqu'au mois de mars. Mais c'est un peu comme si j'y croyais, c'était vraiment de la prévention, mais ça a tellement déboulé. Rapidement que, encore une fois, je pense qu'on voit qu'on est à l'abri de rien. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est un peu ce que je me dis à moi aussi. On nous demande d'être responsable. Même, je me dis, mon Dieu, mais ça fait des années que je porte un masque. Bon, je lave mes mains, puis j'essaie de pas avoir trop de contact. Je suis responsable. Donc, d'avoir confiance que ça va se terminer, de continuer, même si ça peut être difficile, parce que je le vois, j'ai entendu plein de gens parler. J'ai des enfants aussi, des adolescents qui disent, nous, on est la génération COVID, donc on peut pas voir d'amis. Bon, et la famille, c'est difficile. Donc, juste dire aux gens de persévérer, d'essayer d'entrer en contact, comme on l'a déjà dit, avec d'autres personnes, d'avoir un peu, malgré tout ce qui est difficile, d'avoir de l'humour. Je m'en sors souvent avec ça. J'imagine, comme humain, on le fait tous, là. Mais justement, de rester responsable, de poursuivre, parce qu'on va finir par ça va finir par finir. Évidemment, de se faire vacciner. Idéalement, il y a tellement de façons de le faire. On nous aide aussi si les gens ont des craintes. Donc, se faire vacciner, ça demeure vraiment la protection principale, tant pour soi que pour les autres. Et peut-être, je fais pas de leçon de morale, mais tout le monde, on se le dit parfois, se dire, ben, faut que je pense aux autres. C'est certain qu'il y a de nous, mais on vit en société, hein, c'est un contrat social. On vit tout le monde ensemble. Donc, parfois, on se dit, ben non, je suis en santé, je vais très bien, mes enfants aussi, ou je sais pas, ma famille, mais en même temps, il y a des gens qui sont peut-être plus fragiles autour de nous. Donc, de penser à eux aussi. Puis, ma foi, tout ce que je viens de dire là, je trouve que ça entre un peu dans, malgré tout, dans l'esprit des fêtes. Hein? Oui. Penser aux autres, essayer d'avoir c'est ça, de l'empathie, avoir de l'espoir pour la prochaine année. Je pense que ça en fait partie. Donc, ce sera un message absolument humain, mais pour dire aux gens que, fort probablement que je pense exactement la même chose qu'eux.
Ouais.
Puis que je ressens les mêmes choses aussi, mais c'est ça, comme responsabilité, comme maman, comme femme, comme mère, comme députée, comme travailleuse, comme citoyenne, bien je vais jouer le rôle que me demande la santé publique pour m'assurer que ça puisse se terminer rapidement, puis avec le moins d'impact possible sur les nôtres.
Oui, on sait que Dr. Fashion a pris le temps aussi de parler à certains journalistes pour réexpliquer aussi les mesures sanitaires et de faire attention pendant la période des fêtes. Pour ce qui est du gouvernement Legault, on en saura un peu plus aussi demain. Mais pour le fédéral, on sait que c'est beaucoup, c'est le fédéral en fait qui peut avoir certaines solutions ou certaines décisions face au transport aérien interpays. Présentement, les gens, il y a des gens qui essaient de reporter leur voyage, sont pas capables de parler à quelqu'un, ils ont pas de solution, on se fait dire c'est pas remboursable, c'est pas échangeable, les gens font je vais y aller quand même. Et c'est un peu de cette façon-là que des variants comme Omicron arrivent chez nous. Pour ce qui est du gouvernement fédéral, est-ce que de votre côté au bloc, il y a peut-être des solutions pour essayer justement de stopper tout ça? Est-ce qu'on devrait être plus strict? Est-ce qu'on devrait laisser ça tel quel? Est-ce que c'est encore difficile à répondre? Je le sais, mais est-ce que ça va être dans les prochaines discussions, dans les prochains jours selon vous?
C'est certain que ça a déjà fait l'objet de beaucoup de discussions pour pas qu'on revive ce qu'on a déjà vécu en 2020. Ça a été, le gouvernement a bougé plus vite cette fois-ci que la dernière fois. Il reste toujours des incongruités, des incohérences. Je vous donne un exemple tout à l'heure quand je disais que c'est vraiment peut-être précis, mais ça vous donne quand même une idée. Le comité dont je parlais, c'est le conseil interparlementaire mixte. Bref, où on décide des voyages des députés. Je dis des voyages, mais c'est pas des voyages, on s'entend. Là, c'est vraiment des missions de 2-3 jours où tu ne vois même pas ta chambre d'hôtel, où tu as des discussions toute la journée. Nous, on a dit non, ça n'a aucun sens, ça se fera par Zoom. On n'est pas pour mettre des gens en danger, des employés aussi et des gens qui accompagnent et en même temps la population ici. Mais par contre, les ministres peuvent voyager encore. Donc, moi, j'ai posé la question. Pourquoi eux voyagent encore? Donc, il y a toute la question de cohérence. D'ailleurs, la ministre Joly était justement en mission à l'étranger hier. On peut pas dire que c'est ça, je peux pas le dire, mais quand même, il y a un risque. Hein. On va à l'étranger dans des endroits où le virus est vraiment extrêmement présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il faut qu'il y ait aussi un souci de cohérence, donc que ce soit par les airs ou par la terre. Il faut s'assurer que les gens fassent des tests, que les gens soient, bien sûr, qu'ils soient en quarantaine, comme ça se faisait. Donc, pour ma part, on n'a pas encore, c'est toujours après coup qu'on voit ce qui arrive, je veux dire, les impacts négatifs, qu'on se voit aussi comment qu'on aurait dû nous enligner, mais il faut qu'on ait appris de la dernière fois. Et j'ai pas l'impression qu'on a encore tout à fait appris, tout a été mis en œuvre par le gouvernement. Présentement, on voit, c'est quand même, on n'entend rien. Et c'est ce que je déplore aussi. Moi, je pense qu'on devrait être encore en chambre présentement, quitte à ce que ce soit en virtuel, mais qu'on continue de travailler, qu'il y a encore des comités. Il y a plein de suggestions que le bloc a fait, mais là, qu'est-ce qu'il y en a exactement? Est-ce que ça va être appliqué? Donc, je pense que ça serait notre rôle, encore une fois, d'être là. Ça, tant des fêtes, pas tant des fêtes. On a été élus pour représenter les gens, puis je pense que en situation de crise, on ne devrait pas être à la maison. À la maison, entre guillemets, là, sinon, on travaille quand même à télétravail, mais je veux dire, le Parlement devrait siéger, à mon humble avis, pour qu'il y ait d'autres mesures.
Oui.
Et là, on parle de sécurité, mais même économique, là. Je pense à nos bars, aux restaurants, aux salles de spectacle, au cinéma qui ont appris hier, ben, voici le gouvernement fédéral aussi des mesures. Donc là, il faudrait être capable déjà d'en discuter puis d'amener quelque chose, de voter pour que les gens se sentent un peu plus en sécurité. Donc, peut-être c'est la vitesse de réaction
tout à
au
fait,
moins qui n'est pas suffisamment rapide.
Il faut aussi, c'est ça, rappeler que là, présentement, il y a certaines mesures. Évidemment, peut-être que dans les prochains jours, même après les fêtes, les mesures vont être encore plus extrêmes dues au nombre de cas qui risquent, malheureusement, d'empirer. Donc, est-ce que ce sera le retour de la PCU? Est-ce que ce sera le retour aussi de l'aide financière pour ces entreprises, justement? Donc,
et même les transferts en santé, j'en ai pas parlé, mais nous, c'est notre cheval de bataille. En fait, on est sous-financé en santé depuis des décennies et Trudeau a refusé, bien sûr, à M. Legault, mais au premier ministre de toutes les provinces qui ont demandé les transferts en santé encore il y a à peu près un mois, même pas un mois, moins que ça. Il a refusé systématiquement, mais c'est ce dont on a besoin. Donc, oui, les frontières, oui, bien sûr, toute la question des vaccins, j'en ai pas parlé non plus, mais là, il faut s'approvisionner en vaccins. Je comprends pas qu'on n'en ait pas encore. Pourquoi est-ce qu'on construit pas ici? Pourquoi est-ce qu'on produit pas ici? C'est une énorme question. Et même chose, encore une fois, pour la question, j'ai dit la question des vaccins, je me suis perdue, je m'excuse. pour la question de la santé. Même chose pour la question de la santé, où justement on a un manque à gagner énorme. On dit que les gens sont essoufflés, on manque de ressources. Ben, il faut donner cet argent-là. Ça n'a aucun sens qu'il soit dans une crise de santé qu'on refuse de rendre le manque à gagner au Québec et aux provinces. Donc ça, ça n'a vraiment aucun sens.
On sait que 2022 va être encore une très, très grande année avec tous ces dossiers-là parce qu'évidemment, ce sera la continuité de tout ce qu'on a parlé. Ça paraît drôle à dire après 40 minutes, mais c'est un court résumé parce qu'on aurait pu poursuivre notre discussion. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour avoir fait ce bilan-là. Et malgré les circonstances, on vous souhaite vraiment un beau temps des fêtes malgré tout.
Et merci, puis à tous vos auditeurs aussi, puis à toute l'équipe. Vraiment, donc mes vœux les plus chaleureux, si on est un petit peu séparés, au moins, on pense les uns aux autres.
Merci beaucoup.
Merci.